travailler dans le chai, c'est très intéressant, mais pour moi, on comprend un chai si on comprend aussi ce qui se passe à la vigne.
Autrefois, on les appelait les médecins du vin, mais aujourd'hui, le rôle de l'œnologue a bien évolué. Il ne s'agit plus seulement de connaître la chimie et les réactions biologiques, il faut aussi être un très bon agronome et avoir une expérience opérationnelle de toute la chaîne de production, de la vigne jusqu'au chai. Pour nous en parler aujourd'hui, Nadine Raymond, directrice déléguée de la coopérative des vignerons de Saint-Mont dans le Gers, elle nous parle du métier d'œnologue, des spécificités d'une coopérative, de l'évolution des tendances de consommation et de son parcours professionnel.
Vitijobber, présenté par Philippe Hermet, en partenariat avec Vitijob, le site des talents de la vigne et du vin.
Bonjour Nadine.
Bonjour.
En quoi consiste en fait ce métier ?
Alors pour le diplôme, pour le coup, moi c'est un petit peu atypique puisque j'ai fait mon diplôme d'ingénieur. J'ai eu la grande chance de faire mon stage de fin d'études donc à Plémont, qui est une union de caves coopératives. Ce stage a débouché sur une création de poste, donc sur toute la partie recherche et développement, donc avec notre sujet principal qui est autour des cépages autochtones. Et donc j'ai poursuivi sur ce poste et j'ai fait mon diplôme d'œnologue par VAE, donc par validation des acquis de l'expérience, en même temps que je travaillais. Donc le diplôme d'œnologue pour moi, ça a été un peu particulier parce que je mêlais en même temps mes journées au travail et de temps régulièrement des virées à l'université à l'ISVV à Bordeaux pour suivre ses cours. Donc le diplôme en soi, je dirais, c'était particulier parce que j'avais pas le même rythme que les autres étudiants, mais d'autant plus riche parce que j'avais l'application concrète au terrain.
Voilà. Très bien. Donc parlons un petit peu de Plémont producteur. Donc c'est une coopérative qui rassemble, je crois, 800 vignerons, c'est ça ?
Voilà, Plémont c'est 800 vignerons.
Sur 5000 hectares qui représentent à peu près, je crois, un quart du vignoble de la région.
C'est ça, un peu plus de 5000 hectares, 5300 hectares.
Et donc, la spécialité, c'est que vous avez, bien entendu, différentes appellations, le Madiran, appellation Saint-Mont, et puis énormément de cépages autochtones. Hein.
Alors, on a la chance, nous, d'être sur ce piémont pyrénéen qui est extrêmement riche en termes de diversité de cépages. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille quasi exclusivement qu'avec des cépages pyrénéens.
Aujourd'hui, comment, par exemple, un chef de cave va influer sur le choix des profils de vin, en sachant que vous avez quand même des cahiers des charges très spécifiques par rapport aux différentes appellations?
Alors avant même de réfléchir au chai, comment on peut agir là, sur le profil de vin, on va le réfléchir déjà dès le vignoble, en considérant aussi le potentiel de chacune des parcelles, le potentiel de nos terroirs, de nos sols. Donc ça fait partie aussi des études qui ont été menées sur Plémont pour essayer de comprendre en fonction des différentes zones, que ce soit sur Madiran ou sur la Haussée Saint-Mont, quel était vraiment le potentiel de chacune des parcelles. Et en fonction de ça, on va regarder quel est le matériel végétal le plus adapté. Et donc, notre chance à nous, c'est qu'on a une palette de matériel végétal, hein, de différents cépages, qui nous permet un choix assez large. Et donc là, on a toute une équipe de techniciens viticoles qui sont là pour accompagner les vignerons, pour essayer d'identifier finalement la meilleure adéquation entre le potentiel de la parcelle, le matériel végétal et évidemment les vins qu'on espère en sortir.
Et donc aujourd'hui, vos responsabilités donc, sont un peu plus larges, hein, puisque vous gérez à la fois les chais et également la relation avec les vignerons. Comment justement vous abordez ce rapport avec ces viticulteurs qui sont nombreux et qui vous livrent donc les raisins? Comment vous gérez
Alors aujourd'hui, sur la cave, comment on le gère ? Alors ça reste une coopérative, donc il y a quand même un conseil d'administration. Donc on a tous les mois, le conseil d'administration se rassemble. Aujourd'hui, on a 25 administrateurs, donc il y a des échanges très réguliers lors de ces conseils d'administration et même au-delà de ces conseils d'administration. Alors on se rassemble sur différentes commissions, mais également sur de l'échange quotidien, que ce soit par téléphone, sur le terrain, des visites de vignobles ou autre, où il y a un échange quasi quotidien qui va se formaliser par une décision. Et ensuite, cette décision, je la partage avec les équipes, notamment l'équipe de techniciens, qui, eux, la font rejaillir sur l'ensemble du vignoble et donc des adhérents.
D'accord. Vous êtes à la tête d'une équipe de combien de personnes aujourd'hui ?
Alors, sur Vigneron du Saint-Mont, on est 35 personnes.
35 personnes, d'accord. Sur une coopérative globale qui compte, je crois, 200 personnes, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Donc, tout à fait 180 adhérents.
Et donc, dans les chais aujourd'hui, comment ça se passe en fait en termes de vinification, de choix, de décision, de lancement éventuellement de nouveaux produits ?
Alors, il y a une particularité, c'est que la cave Vigneron du Saint-Mont est a un partenaire exclusif, c'est Plémont, pour la commercialisation. Donc, dès lors qu'il y a un besoin commercial, un besoin de nouveaux marchés, ça, c'est discuté. Les commerciaux nous font remonter les messages. Nous, on regarde ce qui techniquement est possible. Mais si vraiment on décide d'aller vers un nouveau profil de vin, c'est que il y a aussi un besoin commercial. Il faut que nous, on ait le potentiel technique et qu'il y a le besoin commercial. Ça, c'est un petit peu le fonctionnement qui est établi entre, on va dire, Plémont et l'ensemble de ces caves. Et donc, c'est de la discussion, là, encore une fois, avec des commerciaux, avec des responsables produits, avec des œnologues, avec des techniciens et avec des vignerons. Il faut que tous les maillons de la chaîne, finalement, soient impliqués à un moment ou à un autre, et qu'on dise, OK, là, on peut, on y va, on avance. Mais il faut que ça parte vraiment depuis le vignoble et que ça puisse se concrétiser jusqu'au chêne.
Il faut que tout le monde soit aligné.
Voilà.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent justement dans la consommation, dans l'évolution de la consommation des vins?
Oui, sur les profils vins, bah notamment sur l'AOC Saint-Mont, le plus gros développement de ces dernières années, ce sont les rosés. Mmh. Aujourd'hui, on avait un encépagement sur cette appellation qui est à base de tanat, pinin, cabernet sauvignon et un petit peu de cabernet franc. Voilà, le tanat, c'est plutôt un cépage qui est destiné à faire des rouges.
Madiran notamment, oui.
Madiran notamment, voilà, c'est l'appellation voisine. Et où Madiran ne produit que des rouges, sur l'appellation Saint-Mont, on trouve les trois couleurs. Donc effectivement, là, on a une augmentation de ce besoin de rosé en AOC Saint-Mont. Donc on est aussi en train de travailler dès le vignoble pour revoir un peu nos encépagements, certainement augmenter la proportion de pinin, qui lui va nous donner des rosés avec les profils aromatiques et équilibrés qu'on attend. Donc ça fait partie des messages qu'on renvoie dès maintenant aux vignerons pour qu'ils anticipent là-dessus, pour qu'il y ait une adaptation depuis le vignoble jusqu'au marché. Et évidemment, entre-temps, il y a toute la réflexion au chai aussi. C'est comment on améliore l'outil de vinification, l'outil technique, pour arriver à avoir ces bons profils produits partant d'un raisin, qui est ce fameux, voilà, nos cépages, toujours avec nos cépages, et pour correspondre à ce qu'on peut sortir sur une AOC Saint-Mont.
Dans l'appellation Saint-Mont, parmi tous les vins que vous produisez, quel est votre plus, aujourd'hui, ce que vous considérez comme votre plus grosse réussite, votre plus grande réussite?
Alors moi, j'irais plutôt sur les blancs. Voilà, parce que je pense que Saint-Mont, l'AOC Saint-Mont, au départ, c'était plutôt connu. Alors connu avec toute la grande notoriété de l'AOC Saint-Mont.
Ouais.
Pour ses rouges, c'est vrai qu'il y a un développement sur les rosés, mais pour moi, la zone de découverte et ce qui aujourd'hui est le plus fantastique, ça va être les vins blancs de l'AOC Saint-Mont.
D'accord. On va revenir sur vos responsabilités aujourd'hui. Donc, vous avez un métier quand même assez prenant. Comment vous conciliez vie personnelle et vie professionnelle?
Alors là, c'est l'équilibre qu'on est toujours en train de chercher, surtout que il se trouve que moi, j'ai repris la direction de cette cave au moment où j'attendais mon premier petit garçon. Mmh. Et là, j'attends un deuxième petit garçon, donc il va falloir concilier tout ça. Alors, sur le métier, il y a une période où, on va dire, la vie de famille passe un peu après le reste, c'est sur la période des vendanges. Là, mmh. Voilà, la période des vendanges, il faut s'organiser.
En septembre, donc.
Septembre, octobre, et on continue les vinifs quand même un peu aussi sur novembre. Là, on s'organise à la maison, on sait qu'on va être moins présent. Et ensuite, sur le reste de l'année, on essaie de faire en sorte d'être présent et de trouver cet équilibre.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les études d'œnologie et devenir œnologue?
Alors là, je vais le réfléchir en fonction de mon parcours, mais aussi en fonction des derniers recrutements que j'ai effectués. C'est qu'aujourd'hui, ce que je trouve de très intéressant dans toutes les personnes qui vraiment veulent s'engager, se spécialiser sur cette filière, c'est d'essayer de balayer assez large. Alors, faire du chai, travailler dans le chai, c'est très intéressant, mais pour moi, on comprend un chai si on comprend aussi ce qui se passe à la vigne. Donc, celui qui veut s'engager sur des études d'œnologie, il y a effectivement toute la partie vraiment pure vinification, chimie du vin qui est hyper importante, qu'il faut maîtriser.
Mais partie par contre, technique, mais aussi
voilà.
Le
mais
terrain.
C'est ça. Il faut comprendre aussi ce qui se passe. Et évidemment, pour quelqu'un qui veut se lancer et démarrer, à mon avis, la meilleure des choses, c'est y mettre les mains. Donc, il y a quelques saisons où il faut passer, où on se salit, où on y est à fond dedans. Mais c'est là que ça permet de comprendre et aussi d'échanger avec l'ensemble des gens qui, derrière, feront partie de nos équipes.
D'accord. Est-ce que des fois, vous avez des différends avec certains vignerons sur la manière dont ils perçoivent la vinification d'un vin ou ce qu'ils voudraient faire d'un vin et votre propre jugement ou votre propre envie finalement. Est-ce que parfois c'est compliqué de leur de communiquer ou de faire passer des messages?
Alors oui, il y a des différends. Ça, c'est Jérôme est en plein sur cette période là, sur le mois d'août, puisque nous sur le fonctionnement. En fonction du potentiel des parcelles de vigne, on essaie de les orienter sur une conduite, un itinéraire technique au vignoble. Et si cet itinéraire technique nous donne satisfaction, c'est-à-dire qu'on obtient un résultat au vignoble en termes de qualité et de quantité de raisin, on essaie de poursuivre cet itinéraire vers un objectif de profil de vin. Donc ça, c'est vraiment une continuité, quand je vous dis du vignoble jusqu'au chai. Et donc ça, ça fait partie des échanges qu'on a tout au long de l'année avec le vigneron. Et là, actuellement, on est en train de passer dans toutes les parcelles pour justement évaluer en fait ce résultat technique au vignoble. Et là, évidemment, le vigneron qui a engagé tous les moyens possibles tout au long de l'année pour faire du mieux possible, la plupart, le résultat est là. Et j'ai envie de dire, on est content et on partage ça et on avance. Et effectivement, quand on n'est pas tout à fait dans le résultat escompté, c'est souvent là qu'il y a discussion, voire comment on redirige ça. Donc là, oui, il peut y avoir échange. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver ce juste équilibre. En fait, pour nous, l'objectif, c'est de valoriser au mieux le raisin qu'il y a sur chaque vigne. Donc voilà, ça, c'est notre rôle, nous, en étant dans une coopérative. Et cette meilleure valorisation, évidemment, il faut qu'elle soit redistribuée au vigneron. Et c'est sûr que de temps en temps, il y a des échanges à avoir avec le vigneron, en lui disant, toi, voilà, ça, on va pouvoir le valoriser de manière fabuleuse, il n'y aura aucun souci, donc on continue même dans les chais. Et toi, bon, là, tu vois, ça, il faut qu'on le réoriente un peu, ou peut-être qu'en termes de travail, pour l'année prochaine, on va adapter un peu plus dès le vignoble et essayer de le réorienter. Ça fait partie de l'échange quasi quotidien qu'il y a dans nos caves.
Très bien. Est-ce que dans le Piémont pyrénéen, on mesure l'impact du changement climatique ?
J'ai envie de dire oui, on sent des évolutions au niveau climatique, mais je pense qu'on a quand même quelques outils et quelques atouts sur ce Piémont pyrénéen pour quand même continuer à aller vers des vins avec une fraîcheur, une digestibilité
Une opportunité finalement.
En tout cas, on va révéler certaines choses qu'on ne révélait pas jusqu'à maintenant.
Comment vous voyez votre évolution professionnelle dans les 5-10 prochaines années ? Quels sont vos projets, si vous en avez ?
Oui, alors très bonne question. Alors déjà, moi, c'est vrai que je suis à Plémont donc depuis quelques années. J'ai eu la chance de démarrer par cette partie recherche et développement où on aborde tous les sujets, mais vraiment en profondeur sur la partie technique, hein, que ce soit depuis le vignoble, même sur la partie chais. Là, c'est sûr que c'est passé en venant sur une direction de cave, ça passe sur une autre dimension, notamment avec la dimension du management, qui est la partie, je dirais, la plus intéressante, mais la plus ingrate aussi.
C'est vrai.
Voilà, mais là, c'est la plus riche. Hein. Si ça fonctionne...
La plus consommatrice de temps aussi.
Voilà, de temps, d'énergie, de tout. Et en même temps, ça donne envie aussi, parce que je dirais, on a la chance quand même d'avoir des gens qui sont engagés dans notre cave. Non seulement engagés, qui ont envie de faire avancer l'ensemble du projet, qui techniquement sont compétents. Alors évidemment, il y a toujours des choses à accorder, des différences de point de vue ou autre. Voilà, on arrive quand même à garder ça encore sur nos structures, je pense, de par aussi la spécificité de nos métiers. Ce sont des métiers de passion, donc c'est sûr que les gens qui ne peuvent pas ou n'ont pas envie de se donner à fond, ils s'essoufflent vite. Donc forcément, ils s'écartent vite. Donc il y a toute cette partie-là. Après... Et dans l'évolution, on verra bien ce que ça réserve demain, mais de toute façon, il faut qu'il y ait cette continuité entre, on va dire, ce qui se passe depuis la vigne, le chai, et après, il y aura ce qui se passe aussi derrière le chai, certainement.
Donc il faut être passionné, en gros.
Je pense que pour travailler dans nos structures, oui, il faut être passionné, parce qu'il y a toujours des périodes, que ce soit pour tenir des discussions avec des vignerons, on discute avec des Gascons, hein, donc ce sont des gens quand même un peu têtus.
À fort caractère.
Voilà, ce qui est très intéressant. Mais donc voilà, que ce soit pour tenir ces discussions-là ou même pour tenir un peu nos ambitions, parce que le projet, que ce soit le projet de Plémont ou le projet de nos caves, il n'est pas gagné d'avance. On part avec des appellations où il y a beaucoup de choses à créer. Et si on parle d'image, de notoriété, il y a tellement de choses à faire avancer. C'est avec des cépages quasiment inconnus, des vins à faire découvrir. Donc oui, il faut y aller.
Très bien. Quelques petites questions plus légères pour finir. Est-ce que vous êtes plutôt Gros-Mansin ou Colombard ?
Gros-Mansin.
Plutôt sélection indigène ou cépage plus large ?
Moi, ce sera sélection indigène, forcément.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes plutôt béret ou casquette ?
Béret.
Très bien, très bonne continuation et merci d'être venu répondre à ces questions.
Bon, merci à vous.
Au revoir. Nous espérons que vous en savez un peu plus sur le métier d'œnologue et de directrice de cave coopérative. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'une jeune étudiante en master qui a dû s'armer de patience et de persévérance pour décrocher enfin son contrat d'alternance. En attendant, si vous cherchez un job ou si vous souhaitez poster une offre d'emploi dans le secteur, rendez-vous sur vitijob.com.
C'était Vitijobber, le podcast des talents de la vigne et du vin, présenté par Philippe Hermet et produit par Vitisphère.